Je citerai quelques paroles du président de la République, François Hollande, pas le discours, mais dans une préface qu'il a rédigée. Le 27 mai, journée nationale de la résistance, la République a rendu un hommage solennel à Geneviève de Gaulle Antonioz, Pierre Brossolette, Germaine Tillon et Jean Zay. Deux hommes et deux femmes, quatre personnalités lumineuses de notre histoire qui ont fait briller l'esprit de résistance, quatre parcours exemplaires qui ont incarné jusqu'au bout les valeurs de la France. Pierre Brossolette, la liberté. Il paya de sa vie son engagement dans la résistance parce qu'il refusait de voir la France soumise. Germaine Tillon, l'égalité, car elle s'est battue pour l'émancipation de tous les peuples et a profondu toutes les formes de discrimination. Geneviève de Gaulle Antonioz, la fraternité. Elle qui avait connu l'enfer des camps de concentration et s'est consacrée au respect de la dignité des plus pauvres, le Quart-Monde, par exemple. Jean Zay, la laïcité. Il s'est dévoué toute sa vie pour l'accès du plus grand nombre à la connaissance et donc à l'éducation. Je rappellerai, cela sera dit par Maître Gérard Boulanger, il a été assassiné le 20 juin 1944 par des miliciens. Je cite encore le président de la République. Leurs destins sont pour nous autant d'exemples de droiture, de courage et d'engagement. Leur message humaniste résonne plus que jamais à notre époque. Alors, tout simplement, comment vous avez ressenti ce moment tout à fait unique et comment s'est fait ce travail de mémoire avec un petit groupe d'individus pour cette reconnaissance par la République de la figure de Jean Zay qui a été novateur à plus d'un titre, aussi bien dans l'éducation que dans les arts, que dans les cinémas. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots?
Oui, peut-être par rapport à ce que vous venez de dire là sur les quatre vertus républicaines. Alors, très souvent évoquées, y compris par des gens qui ne les respectent pas beaucoup. Donc je crois que quand on parle de vertus républicaines, il faut préciser ce qu'on met dessous. Alors en effet, le président Hollande, quand il avait annoncé il y a un an, avait, si je puis dire, mis un nom sur chacun. Mais il a dit aussi que Jean Zay, c'était la République. Or, la République, c'est toutes ces valeurs-là. Et au fond, dans la vie de mon père, il y a les quatre valeurs, c'est-à-dire la liberté, c'est le combat antifasciste qu'il a mené dès 1933. Hein, il n'a pas attendu la guerre pour résister de la façon dont on pouvait résister au fascisme, non pas naissant, mais qui se développait en Allemagne. L'égalité, bien, c'est tout son combat pour l'égalité de tous les enfants et l'égalité de tous devant la culture. La fraternité, ça va de soi. Donc voilà, je voulais simplement dire que, d'ailleurs, le président Hollande, dans son discours d'hier, n'a pas tellement repris ces quatre. Enfin voilà, bon, pour répondre à la question, non, pour répondre à la question, comment j'ai vécu ce moment, ben, vous en doutez, c'est quelque chose à la fois. D'abord, c'était une nouvelle que nous connaissions depuis un an, puisque le président Hollande l'avait annoncé en février, je crois, février 2014. 21 février. Et donc, là, c'est déjà la chose considérable, hein, vous imaginez. Donc, on a eu le temps d'y penser, de s'y préparer, j'en sais rien, mais en tout cas, d'y penser. Mais c'est vrai que, d'une certaine façon, ça restait abstrait, c'était le 27 mai 2015. Et, en effet, quand on est sur l'événement lui-même, c'est une émotion, j'ai du mal à qualifier, extrêmement forte, parce que, d'abord, il y avait tout ce cérémonial républicain. Il y avait la venue des cercueils. Il y avait ce très bel hommage à la Sorbonne la veille par des jeunes lycéens. Et c'est le plus bel hommage, au fond, en tout cas pour mon père, qui peut être rendu que d'un hommage rendu par des jeunes qui pratiquent une activité artistique. Il y avait des lectures, enfin, un très très bel hommage. Et puis, évidemment, la cérémonie du Panthéon hier. Donc, je ne vous étonnerai pas en disant très très grande émotion, très grande fierté. Et en même temps, le sentiment que enfin, d'une certaine façon, ait reconnu en lui ce qu'a été son combat, à la fois pour l'école, pour la culture, pour la liberté du pays, combat pour le pays. Enfin, c'est reconnu par la nation, par le pays, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Alors, on va rejoindre là les questions de mémoire, en effet, pour aller vite. Bon, vous savez, mon père est assassiné le 20 juin 1944 par des miliciens, sur ordre. L'ordre est venu directement de la, du cabinet de Dardan, qui était le chef de la milice, par un ordre de transfert qui est en fait, comme le dit Antoine Pro, un ordre d'assassinat, puisque cet ordre de transfert que les miliciens présentent au directeur de la prison dit qu'il va être transféré à la prison de Melun et que ce transfert va être effectué par des miliciens. Or, la prison de Melun n'a jamais été avertie d'un tel transfert et jamais, même à cette époque-là, jamais les miliciens n'opéraient ce genre de transfert. C'était le personnel pénitentiaire ou bien des gendarmes. Donc cet ordre est un ordre d'assassinat et ils enlèvent donc le prisonnier en signant d'un faux nom sur le registre des coups. Le registre des tu m'écoutes pas ou quoi?
Si, si. je suis fasciné par ce que tu dis.
À chaque fois, je pose une question. Et d'ailleurs. Bon, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir de ce jour-là, il disparaît. Il disparaît pendant, en fait, 4 ans. Il faudra 4 ans pour qu'on sache ce qui est arrivé. Le jour même du 20 juin, ma mère rencontre un gardien dans une rue d'Orion. Vous savez qu'il était emprisonné d'Orion. Enfin, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Et qui lui dit, vous savez qu'on est venu chercher votre mari. Elle se précipite à la prison. Elle interroge le directeur qui refuse de lui répondre. Et le lendemain même, elle demande rendez-vous à Laval. Et Laval la reçoit et lui dit, je suis au courant de rien. Je vais faire une enquête. Il fait faire une enquête, mais il fait faire une enquête aux renseignements généraux qui sont à l'époque des miliciens. Donc vous voyez, on fait faire une enquête. Et donc cette enquête, maintenant on a retrouvé toutes les pièces dans les archives judiciaires militaires. C'est le sinistre Pinceau qui a eu un rôle. Enfin, qui a commis des crimes divers, fait l'enquête qui est complètement fabriquée. On fabrique 3 PV complètement faux qui disent que, au cours du transfert, il a été enlevé par des résistants. Et donc, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Donc, ma mère le croit au début. On va le croire pendant quelques mois, pas très longtemps, parce que très vite, on sait qu'il a été assassiné par des fuites venant d'ailleurs des milliers de la milice eux-mêmes. Jusqu'en 1946, des chasseurs découvrent dans un endroit perdu en haut d'une colline, dans une ancienne carrière abandonnée, 2 corps qu'on n'identifie pas et qui sont enterrés anonymement à Cussé, qui est une petite ville près de Vichy. Et ça n'est qu'en 1948 qu'à la suite de l'arrestation d'un des assassins, de Vell, il va révéler les circonstances de l'assassinat. Donc, pendant 4 ans, il disparaît. Et l'histoire continue, elle. Et il y a des choses qui se mettent en place, des choses que d'ailleurs mon père avait mis en place déjà. Je prends l'exemple du Festival de Cannes. Je crois que le premier, c'est en 1947.
Le Festival de Cannes, avec Mitterrand, je crois,
j'ai
non
du mal, j'ai du mal à entendre parce que quand tu parles dans le micro là, j'entends.
C'est 47 le premier que... Ou 46 non. Je ne sais plus. Enfin, bon, vous savez que c'est lui qui a créé le Festival de Cannes. Je rappelle les circonstances de cette création, parce que c'est très important. J'ouvre une parenthèse, mais c'est vrai que je peux digresser un petit peu, c'est pas grave. Vous savez qu'en 1938, il y avait un festival international à la Mostra de Venise, et qui était à Venise, et donc qui était dans l'Italie fasciste. Et cette année-là, le palmarès, d'abord, au dernier moment, est bouleversé, et Hitler impose le premier prix, qui est les dieux du stade, de Leni Riefenstahl, et le deuxième prix, je crois, un fils ou un neveu de Mussolini. Donc les pays démocratiques s'en vont furieux et disent qu'ils n'y reviendront jamais à ce festival. Et donc c'est la France qui va proposer un nouveau festival dans un pays démocratique. Alors il y a une petite anecdote assez amusante, c'est qu'on va le fabriquer en 8 mois, ce festival, très rapidement, parce qu'il y a urgence. Et il y a 3 villes qui sont candidates, il y a Nice, Cannes et Vichy. Donc on se demande ce qui serait passé si Vichy avait été choisi comme lieu du festival. Bref, on prépare la programmation, tout est prêt, le festival doit commencer le 1er septembre 1939 et la guerre éclate, donc il n'aura pas lieu. Donc je ferme la parenthèse, on reprend le festival à la Libération, mais sans dire que ça n'était en fait que c'était Jean Zay qui l'avait créé. Il faudra à peu près 80 ans pour que ça soit relativement connu. Bon, c'était une parenthèse, mais c'est pour montrer que à la Libération, donc, il y a cette absence. Et puis, il y a le fait qu'il est en dehors des grandes mémoires de la Résistance, c'est-à-dire la mémoire gaulliste, évidemment, la mémoire communiste, les deux grandes mémoires. Et son parti, puisqu'il était radical, comme vous savez, son parti n'a pas porté cette mémoire à la Libération. D'abord, c'était un parti qui n'a pas brillé par son dynamisme. On peut dire ça ? Oui. J'espère que je ne choque pas des radicaux parmi vous, mais je parle pas du présent. Hein. Et donc voilà, il a toujours été un peu décalé par rapport à ses grandes mémoires. Qui ont occupé les premières années de la Libération. Et puis, vous le savez mieux que quiconque, l'action de Vichy, de complicité, d'une part de la déportation des Juifs de France, d'autre part, la politique antisémite de Vichy n'a pas été mise en relief à la Libération. On a préféré célébrer la résistance, et on a eu raison de le faire, hein, de Gaulle plutôt que Pétain et la collaboration. Or, et c'est une autre raison dont moi j'interprète cet oubli relatif dans lequel il est tombé, c'est que c'est une histoire franco-française. Il n'a pas été assassiné par les Allemands, contrairement à ce que moi j'ai entendu pendant très longtemps, ou contrairement à ce que j'ai lu dans des plaques qui ont été apposées à Vichy, à QC, là où il a été assassiné, parce qu'il y a un monument, ou bien à Orléans, au lycée Jean Zay, qui a été très vite baptisé. Alors, il y a eu des formules diverses, assassiné par les ennemis de la France, ou bien par les complices de l'ennemi, ou bien victime de la barbarie nazie, ce qui n'est pas faux. Enfin, bon, vous voyez bien, c'est très exactement la même chose que sur les plaques qui ont été apposées à Pithiviers, à Baudelaire-Rolland. À savoir, si vous avez visité le musée à Orléans, vous avez pu voir que la première plaque à poser, ça a été que les gens ont été internés par les Hitlériens. Or, les internés n'ont pas vu un uniforme allemand. Bref, voilà. Et puis, alors, ceci dit, sa mémoire a été portée dans un milieu qui est le milieu de l'éducation, le milieu des enseignants, du ministère, des milieux de l'enseignement. Mais du point de vue de la mémoire nationale, c'est vrai qu'il y a eu, le moins qu'on puisse dire, c'est des intermittences. Mais ça, je pense que Gérard en parlera mieux que moi. Donc, il y a toujours eu des gens qui a porté cette mémoire, donc ces milieux-là, toujours. Ses amis, qui étaient souvent des anciens membres de son cabinet, je pense à Jean Cassou, Marcel Abraham, qui ont très tôt créé une association qui s'appelle, et qui existe toujours, l'Association des Amis de Jean Zay, qui a donc œuvré, alors d'abord ses anciens collaborateurs, enfin, pardon, les anciens membres de son cabinet. Ensuite, cette association a continué à militer pour sa mémoire. Il y a eu un premier livre de Marcel Ruby, je crois que quelqu'un en parlera tout à l'heure. Et puis, bien sûr, tout ça, c'est plutôt réveillé, je dirais, au début des années 2000, où moi, j'ai senti, ma sœur aussi et les amis proches, qu'il y avait un changement, que tout d'un coup, cette figure oubliée, et d'autant plus oublié en proportion de la quantité de choses qu'il a faites en effet, commençait à réémerger et à revenir dans la mémoire parce que, et moi je l'ai senti comme ça, représentant en effet, incarnant de certaine façon les grandes valeurs de la République et surtout l'école qui est au cœur du projet républicain. Quand l'école va mal, la République va mal et réciproquement. Il est au cœur, de cette action pour l'école. Donc sa mémoire a commencé à réémerger. Puis dans, il y a quelques années, une association s'est créée donc qui s'appelait Jean Zay au Panthéon. Je dois dire que c'est une idée qui ne me serait jamais venue. Et ma sœur et moi n'avons jamais fait aucune démarche pour ça. Mais d'autres l'ont fait, en particulier cette association, un certain nombre de personnalités. Et le résultat, vous l'avez vu hier. Voilà.
Vous avez répondu à la question, mais de toute façon, vous répondrez aux questions de la salle. Mais avant tout, je voudrais présenter notre deuxième intervenant, Maître Gérard Boulanger. Alors, Maître Gérard Boulanger, il faut rappeler quand même aux personnes qui sont présentes ici que vous êtes celui, l'avocat qui, le 8 décembre 1981, a déposé la première plainte à l'encontre de l'ancien ministre Papon, Maurice Papon, et que cette procédure, ça paraît incroyable, a duré 23 ans, n'est-ce pas ? Au terme de laquelle Maurice Papon, qui fut le seul fonctionnaire français à être condamné pour complicité de crimes contre l'humanité. Donc vous avez fait un travail exceptionnel, et je sais que c'est un travail qui vous a pris toute votre énergie.
Il
vous en reste un peu parce que vous venez pour la troisième fois. La question que je voulais vous poser, dans quelles circonstances vous faites connaissance du personnage de Jean Zay? Car je rappelle que vous êtes l'auteur de l'ouvrage « L'affaire Jean Zay, une république assassinée ». Comment la République assassinée, comment êtes-vous venu à défendre la cause, l'oubli, de lutter contre l'oubli dans lequel était plongé Jean Zay? Et voilà, et comment, en quelque sorte, la genèse de cette passion pour ce personnage exceptionnel de la République?
Oui, merci de votre accueil. C'est la troisième fois que je viens dans cette noble institution qui est le Cercle Bernard Lazare. La dernière fois, j'avais été invité, évidemment, par notre ami Jean-Michel Rosenfeld. Et j'étais d'ailleurs venu parler de Papon. C'était avant le procès. C'était avant le procès de 97-98. Eh bien, c'est dans le droit fil parce que, à un moment donné, quand la première instruction Papon a été annulée, anéantie en 1987, en février 87, j'ai compris que si je voulais obtenir un procès, il fallait que j'écrive pour que l'ensemble de mes concitoyens comprennent ce qui se passait dans cette affaire-là. Parce que c'était complexe et que, si vous voulez, les médias parlaient tout le temps de cette affaire, mais c'était comme autant de confettis qui ne permettent pas de comprendre à l'opinion publique. Or, le peuple n'est souverain que lorsqu'il sait. Et pour qu'il sache, il fallait faire ce travail. Donc j'ai abandonné mon cabinet pendant 3 ans et j'ai écrit le premier et le deuxième bouquin sur Papon pour montrer comment il était l'auteur de crimes contre l'humanité pendant la guerre, mais aussi, et j'y tiens, de crimes contre la mémoire, quand, après la guerre, il a organisé son impunité par la falsification de son dossier administratif. Il y a 13 faux dans son dossier administratif. C'est important à comprendre, parce que très souvent, on dit, mais enfin, comment il a pu s'en tirer? Ben oui, mais il a organisé sa survie. Donc, ce livre-là, pour obtenir la tenue du procès, je suis allé le présenter dans un certain nombre d'endroits, dont ici même. Mais j'étais venu le présenter à Orléans en 1994. C'est là que j'avais fait la connaissance de Catherine et d'Hélène. J'étais allé à la librairie Les Temps Modernes, qui était animée par Catherine. Et donc, j'avais fait une conférence sur Papon. Et évidemment, comme j'avais été aussi obligé de me poser la question de « mais qu'est-ce qui s'est passé à Bordeaux en juin 40 ?» Parce que je m'étais rendu compte que c'était dans la même salle, que Papon avait prêté serment le 5 juin 42 à Pétain et que Pétain avait pris le pouvoir le 16 juin 1940, dans l'hôtel de préfecture de Bordeaux. Ce télescopage m'avait assez interpellé. Et donc, je m'étais demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé à Bordeaux? J'ai beaucoup cherché, j'ai cherché des livres qui racontaient ça, il n'y en avait pas. Donc, je l'ai écrit. Et l'écrivant, je me suis rendu compte qu'il s'était passé des choses très graves à Bordeaux, que la République avait été, évidemment, rayée de la carte. Et notamment, il y avait ce fameux épisode du paquebot Le Massilia, qui était parti, les parlementaires, enfin, 27 parlementaires, étaient partis pour aller résister au Maroc, et parmi ces parlementaires... Il y a Pierre Mendès-France, sur lequel j'ai écrit ensuite un livre qui s'appelle « Le juif Mendès-France, une généalogie de l'antisémitisme ». Et il y avait Jean Zé. Et Mandel, il y avait Mandel. Mais il y avait Daladier, enfin, il y en avait d'autres. Mais c'était les figures de proue de cette volonté de résistance. Pendant que, simultanément, De Gaulle partait vers Londres. Et l'épisode du Massilia a été effacé un peu des mémoires parce que, c'est vrai qu'après-guerre, et ça je l'ai démontré dans mes bouquins, il y a eu quand même une espèce d'occultation de ce départ des parlementaires, parce que, en somme, il n'y avait de place sur la photo que pour une seule personne. Et les associations gaullistes de l'après-guerre ont veillé à ça avec beaucoup d'importance. Ce qui explique, d'ailleurs, c'est une des explications, c'est pas la seule, hein, mais c'est une des explications sur l'effacement de la mémoire de Jean Zé. Bon, et comme Jean Zé a été assassiné et que les miliciens l'avaient évidemment précipité dans le puits du diable et avait dynamité le rocher, on ne l'a retrouvé que 2 ans plus tard. Donc l'œuvre de la milice s'accomplissait doublement, parce qu'il y avait l'assassinat, mais il y avait aussi l'assassinat de la mémoire, puisqu'on ne savait pas ce qu'il était devenu. Madeleine Zé a fait des recherches considérables pendant des années pour essayer de le trouver. Donc tout ceci, pour moi, se tenait. C'était un problème. Donc... après avoir obtenu la tenue du procès, après avoir plaidé pendant 6h20 en 98 contre Papon dans une journée, et après avoir continué une bataille qui est en cassation, la Cour européenne des droits de l'homme, etc., mais ça n'intéressait plus personne, c'était plus dans les feux de l'actualité. Mais en même temps, moi, je continuais à me poser la question, notamment de... C'est bien joli de se dire, bon, il y a des hauts fonctionnaires qui ont fait ça. Mais pourquoi l'ont-ils fait? Le climat des années 30-40, comment a prospéré l'antisémitisme dans notre pays? Ça, c'était très important. Et c'est pour ça que quand j'écris sur le « juif », entre guillemets, Mendès-France, j'essaye de faire la genèse d'une persécution. Et pour Jean Zé, c'était le même problème. Parce que ce qui m'a frappé, alors bon, comme j'avais fait la connaissance de ces deux filles et que je suis allé les voir, etc. Et comme Michel et John Mendès-France, elles ont eu la générosité de mettre à ma disposition leurs archives familiales, ce qui est quelque chose de très précieux pour arriver à faire comprendre une situation comme ça, outre tout ce que je cherchais par ailleurs. Mais là, il y a quelque chose, il y a un matériau brut qui est décisif, n'est-ce pas? Et donc, je me suis mis à travailler là-dessus et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que, en fait, Jean Zé était extraordinairement emblématique de la persécution antisémite. Et qu'il était d'autant plus emblématique que, d'une certaine manière, il était à la fois juif par son père, protestant par sa mère, agnostique par ses convictions, puisqu'il était maçon, et que, justement, ça contredisait tout à fait tout ce qui se disait sur l'identité nationale. Moi, je ne crois pas à l'identité. Je crois aux appartenances. Nous avons tous de multiples appartenances et nous choisissons les appartenances qui nous conviennent. S'il y a des gens à l'extérieur qui essayent de nous assigner une identité, c'est toujours dans un but malveillant. C'est jamais gratuit. Donc, nous devons avoir la liberté de choisir nos appartenances. Et cette notion d'identité qui est serinée, à l'heure actuelle, on parle tout... Les médias parlent volontiers de communautarisme, en le stigmatisant, mais tout en parlant sans arrêt de communauté, alors même qu'on ne voit pas pourquoi privilégier le terme de communauté dans telle ou telle situation. Donc c'était un... Jean Zé, de ce point de vue-là, était un sujet d'étude tout à fait remarquable. Mais il y avait autre chose qui était tout à fait remarquable, c'est que Jean Zé... va être un élu très... Alors, c'est un radical de gauche. Il va être très vite, d'ailleurs, un personnage clé du radicalisme. Il devient le chef de file de ce qu'on appelle les jeunes Turcs. Et avec... Oui, mais il aussi bien Mendès France que Monerville, etc., tous reconnaissent sa prééminence. C'est vraiment le ils disent c'est le plus brillant d'entre nous. Enfin, quand Mendès France dit c'est le plus brillant d'entre nous, je crois qu'on peut le croire, quoi, hein, parce que Mendès France, c'est pas n'importe qui. Donc, Jean Zay va être attaqué à sa première campagne électorale en 1932. Et le 27 avril 1932, il y a un article qui sort dans le journal du Loiret, qui est un journal d'extrême droite, maurrassien, qui l'attaque avec une violence inouïe. Et si vous me le permettez, je voudrais vous lire ce très court texte, parce que ce court texte, en fait, nous y sommes toujours, d'une certaine manière. Voilà ce texte. L'élection a lieu le 1er mai 1932, c'est la première, et Jean Zay sera élu. Il n'a pas 28 ans, il va être le plus jeune député de France. Voilà le texte. « Orléanais, dimanche prochain, 1er mai, vous aurez à élire votre représentant à la Chambre des députés. Un juif authentique, Élie Jean Zay, fils du juif Jacob Léon Zay, neveu du juif Iscariote Zay, cireur de chaussures sur le Mar III, et petit-fils du juif Isaac Zay, le rabbin, ose solliciter vos suffrages. » Autant vous dire que les prénoms sont totalement fantaisistes et qu'il n'est pas petit-fils de rabbin, mais peu importe. « Pour mieux vous duper, il s'est maquillé, déguisé en protestant, et il y a quelques mois, il se maria en grande pompe et avec beaucoup de réclames au temple protestant du cloître Saint-Pierre en Pont. Et il se dit laïque et grand mangeur de curés. Reniement, imposture, culot, voilà ce que personnifie ce petit monsieur, ce nain, personnage trop ambitieux qui se croit un petit dieu. La cité de Jeanne d'Arc, ô honte suprême, ô infamie, ô déchéance inconcevable, subira-t-elle l'opprobre d'un député juif ? Et c'est écrit en majuscule au cas où le lecteur inattentif n'aurait pas compris de quoi on parle, n'est-ce pas ? Pour la gloire si pure de notre ville, pour notre héroïne si chère, il ne faut pas que cela soit. Et quand je vois ce texte qui est connu et qui est, que d'autres biographes de Jean Zay ont cité, je me dis que nous sommes effectivement là face à un entrelac de tous les thèmes qui forment l'antisémitisme occidental. C'est pour ça que la première partie de mon livre, il y a trois parties dans mon livre, mais la première partie, je l'ai appelée « Les mots qui tuent ». Parce que, en fait, le procès qui est fait à Jean Zay à ce moment-là est fait avant même qu'il ait fait quoi que ce soit. Il est certes militant radical socialiste, son père est une personnalité éminente du Parti radical socialiste et toute sa famille, tant du côté de son père que du côté de sa mère, sont tous en radicalisme, sont tous à la Ligue des droits de l'homme, sont tous en maçonnerie, sont tous des grands républicains, des Dreyfusards, etc. Donc, qu'ils soient protestants, qu'ils soient juifs, peu importe, ils ont le même amour de la République. Et ce qui m'a frappé tout de suite, c'est qu'en fait, le procès commence avant qu'il ait dit quoi que ce soit, avant qu'il ait fait quoi que ce soit. C'est donc un procès essentialiste. Et ce qui m'a intéressé aussi, c'est de montrer... Alors, je ne peux pas rentrer, vu le temps que vous m'avez imparti, je ne peux pas rentrer dans l'étude que je fais pendant 100 pages de quelles sont les racines de l'antisémitisme occidental, avec tous les mythes chrétiens et catholiques, notamment, dont le dernier, au moment de l'affaire Dreyfus, et sans doute le plus redoutable pour Jean Zay, c'est le mythe vaticano-orléanais de Jeanne d'Arc, qui, d'héroïne anti-anglaise, devient héroïne anti-allemande en 1870 et devient héroïne anti-juive pendant l'affaire Dreyfus. Or, Jeanne d'Arc, c'est l'héroïne d'Orléans, puisqu'elle a libéré Orléans le 29 mai 1429. Pardon. Et donc, à partir de... Non, parce que tu es orléanaise, tu allais me reprendre, je le sentais. Et donc, on va opposer cette figure mythique de Jeanne d'Arc à Jean Zay. Et il faut bien, c'est très important parce que Jeanne d'Arc avait été canonisée puis béatifiée. Sa béatification, elle date de 1920. Jean Zay, à ce moment-là, il a déjà 16 ans. Il entre en politique quelques années plus tard. Donc on est en plein dans quelque chose qui a été porté par tous les fléchés d'Orléans pendant 60 ans. 60 ans, c'est une bataille qui est menée pour la canonisation et la béatification. Donc, je fais court là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que on a opposé à Jean Zay tout de suite, on lui a fait un procès, mais on lui a fait un procès. On est dans un procès symbolique à l'aide de mythes extrêmement puissants qui agite ce que, pour ma part, j'appelle l'imaginaire national catholique qui s'est fait par fusion au moment de l'affaire Dreyfus. Et d'ailleurs, on retrouvera ça au moment où Jean Zay va être condamné en 1940 devant le tribunal militaire de Clermont-Ferrand, parce qu'on lui fait un procès qui est une affaire Dreyfus silencieuse, enfin c'est ce que je prétends, et on le condamne à la peine de Dreyfus. Symboliquement.
C'est le bagne, la déportation,
il faut qu'il parte en Guyane, etc. Et la dégradation militaire, évidemment, comme Dreyfus. Donc, en fait, de même que l'affaire Dreyfus marque le début de la Troisième République, est une bataille contre la République, et l'affaire Jean Zay marque la fin symbolique, puisqu'il est le premier condamné. Et les vichistes, à ce moment-là, disent que c'est un procès qui est absolument symbolique, emblématique. Ils le disent. Donc, d'une part, ce qui me semblait important dans cette... Parce que ce qui est en jeu, c'est la République. La République, en France, elle est fragile. Vous savez que la Première République, elle est née le 22 septembre 1792. Mais en fait, le 21 septembre, on a dit « la monarchie est abolie ». Mais le 22 septembre, on a oublié de proclamer la République. Et ça, c'est très lourd symboliquement. La République en France, toujours dans une difficulté. La deuxième, assassinée dans les journées de juin 48. La troisième, on en parle, et elle est votée parce que l'amendement Vallon, en 1875, dit qu'il va y avoir un président de la République. Donc on en déduit qu'on est en République. Mais l'amendement Vallon, il est voté à une voix de majorité. Donc, toujours en France, on a l'impression que la République, ça va de soi, mais ça va jamais de soi, la République. Il y a toujours un grand parti anti-républicain et qui se manifeste beaucoup à l'heure actuelle dans notre France. Toujours. Il est là. Il est intact. Et donc, Jean Zay, d'une certaine manière, au fond, va porter le poids de toute cette bataille parce qu'il est d'Orléans, parce que il va lui être reproché, au fond, d'avoir toutes les caractéristiques du juif errant, encore un juif du mythe augustinien du juif errant, parce que aussi on va lui reprocher d'être l'homme de l'école sans Dieu, parce qu'il va être le libre penseur, etc., le grand ministre de l'Éducation nationale qui a fait un travail tellement extraordinaire. Donc il va y avoir un concentré, si vous voulez, de toutes les haines antisémites, mais qui sont avant tout, et j'ose le prétendre, des haines profondément anti-républicaine. Parce que ce qui me semble important, c'est que finalement, Jean Zay a été haï sur Orléans parce que l'extrême droite et la droite orléanaise sous hégémonie de l'extrême droite lui reprochent en fait d'avoir pris le contrôle électoral d'ailleurs, par les urnes de la ville, de tout le département. Il est le vrai patron politique du Loiret. Mais elle lui reproche ça et elle sait qu'il joue un rôle tout à fait décisif dans la constitution du Front populaire. Mais on lui dit pas « Vous, on ne vous aime pas parce que vous êtes le représentant de la République égalitaire, de la République sociale, etc. » Ce qu'il est, hein, il est vraiment pétri de toute cette culture-là. On lui dit « Vous, le juif, taisez-vous. » Et ce que je prétends dans ce livre, c'est qu'il y a en fait un déplacement. Parce que pour combattre la République, le meilleur outil, c'est l'antisémitisme. Et je fais référence aussi à un grand professeur de sciences politiques qui s'appelle Pierre Birnbaum, que j'ai eu comme professeur quand j'étais à Sciences Po à Bordeaux. Et Pierre Birnbaum a fait toute une étude là-dessus. Vous le savez, vous connaissez ses écrits sur les juifs d'État, ce qu'il appelle les juifs d'État, et combien ils ont été combattus. Au fond, ces grands serviteurs de la République, qui étaient Léon Blum, Pierre Mendès France, Jean Zay, etc., ou Mandel, chacun dans un secteur politique un peu différent, d'ailleurs. Mais on les combat par l'antisémitisme. Et c'est la meilleure manière de combattre la République, en réalité. Faire taire. Parce que, comprenez bien, la défense est impossible. Comment voulez-vous qu'ils se défendent? Et d'ailleurs, Jean Zay, qui lui-même... À aucun moment, moi j'ai trouvé dans un écrit le fait qu'il revendique une judéité, qu'il soit dans la judaïté, c'est-à-dire le statut assigné par les persécuteurs, au sens où Spinoza disait que le peuple juif est le produit de la haine des nations, ou Sartre disait le produit du regard de l'antisémite, ça, il est dans la judaïté. Il n'est pas dans le judaïsme, puisqu'il est agnostique, mais il est dans la judaïté. Mais la judaïté, il n'en dit rien. Mais quand on l'attaque, il dit dans « Souvenirs et solitude », cette phrase extraordinaire, « Sur telle matière, j'ai toujours pris grand soin de ne jamais... » Hein? J'ai tenu à honneur de ne jamais
démentir quoi que ce soit.
Jamais démentir quoi que ce soit. Parce que c'est la seule attitude de dignité possible. C'est évident. Mais vous comprenez bien que quand vous êtes calomnié, attaqué, vilipendé et que vous ne répondez jamais, c'est quand même compliqué. Et donc, son action politique a été tout à fait contrecarrée en permanence par des gens, toute la presse d'extrême droite qui n'a cessé de l'attaquer, etc. Et elle l'attaquait particulièrement, et ça c'est un point important, sur un écrit qui s'appelle « Le drapeau ». Et le drapeau, je voudrais dire en un mot, parce que ça, il faut être clair, l'extrême droite en a fait un manifeste. Ce n'est pas du tout un manifeste, c'est un jeu littéraire entre amis. C'était des jeunes gens qui avaient 19-20 ans, qui faisaient un cercle littéraire et qui s'amusaient à pasticher. À l'époque, c'était très à la mode. Certains d'entre vous ont lu les « À la manière d'eux » de Rebou et Muller, par exemple, et c'était très très à la mode à l'époque. Alors, il avait fait plusieurs pastiches, et il fait un pastiche de Gustave Hervé, qui était un antimilitariste du début du siècle, qui avait d'ailleurs été défendu à la cour d'assises d'Auxerre par Aristide Briand, un jeune avocat de talent. Bon, avant de devenir, Gustave Hervé, le super pétainiste qui écrit « Ces pétains qu'il nous faut » en 1934. Oui, bon, lui, il avait changé complètement de... Mais il paraît que Gilbert Collard était au Parti Socialiste en 1981, et on voit où il est maintenant. Bon, donc ça arrive à d'autres gens. Et donc, il a écrit ce texte qui lui a été volé. C'est un texte à huis clos. C'est un texte, un jeu littéraire entre amis et qui ne doit pas sortir, qui n'est pas destiné à publication. Et c'est un pastiche. Il lui est volé. Il est publié. Donc il est recelé par les journaux. Deuxième délit, hein, d'un point de vue pénal. Et il est publié sans son accord. Donc, je veux dire... Et maintenant, toute l'extrême droite continue à nous dire il a écrit et ça continue. Je faisais allusion à Gilbert Collard parce que je crois que ce matin, sur Europe 1, il est revenu là-dessus. Bon. Donc, il y a là, si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est de voir que l'attaque de 1932, parce que le jour où il est attaqué par ce texte-là, c'est le même jour où, pour la première fois, des extraits du drapeau sont publiés dans le journal du Loiret. C'est pas un hasard. Et à l'heure actuelle, quand le président de la République, le 21 février 2014, annonce qu'il y aura 4 panthéonisés, dont Jean Zay, immédiatement, déchaînement de toute une littérature d'extrême droite contre Jean Zay.
Minoritaire.
Oui, non, mais enfin, ça existe. C'est pour ça que moi, j'ai été amené à écrire un texte qui est sorti dans le Nouvel Obs cette semaine et qui est en édition numérique beaucoup plus complet et qui est accessible à tous, qui s'appelle « Pendant la panthéonisation, la persécution continue ». Parce qu'on est toujours sur le même thème du drapeau. Et, regardez, ce type-là, c'est pas un vrai Français, parce que, etc., etc. Voilà. Donc, au fond, ça, c'est, pour moi, c'est absolument fondamental. Il faut étudier de très près la manière dont Jean Zay a été persécuté, parce que ça nous apprend beaucoup de choses, y compris sur ce que nous vivons à l'heure actuelle. Alors, dernière chose que je voudrais ajouter, parce que je veux pas... vous m'avez donné un temps précis. Dernière chose que je voudrais ajouter, c'est le procès. Il va être arrêté, etc. Et il va être... C'est le premier... Alors, on leur reproche d'être des fuyards. Donc, c'est toujours... Le juif errant est un traître, c'est un cosmopolite, donc c'est un lâche, donc ils se sont enfuis. Non, ils ne se sont pas enfuis. Ils allaient combattre en Afrique du Nord. Et c'est ceux qui livrent la France aux nazis qui leur reprochent d'être des traîtres. Ce qui est quand même extraordinaire. Parce que quand Pétain, le 17 juin 1940, il dit « C'est le cœur serré que je vous dis qu'il faut cesser le combat », il n'a aucun mandat de qui que ce soit pour faire ça. Et il désarme immédiatement une grande partie de l'armée française. Et on va se retrouver avec 1 800 000 prisonniers qui vont partir en Allemagne. Donc je veux dire, ce que fait Pétain à ce moment-là, c'est un crime contre la nation. C'est évident. Et contre la République. Mais c'est lui qui fait juger... par des militaires maurassiens, d'ailleurs, d'extrême droite, il fait juger Jean Zay, et qui va le faire condamner lourdement. Alors, moi, il y a deux choses que je voudrais vous dire, et je vais arrêter là. D'une part, dans les recherches que j'ai faites au Blanc, Hélène connaît bien, c'est-à-dire ce sont les archives de la justice militaire, dans le centre de la France, à côté de Poitiers, je me suis rendu compte d'une chose en regardant le procès de Jean Zay, que nous n'avons pas été très nombreux à regarder. Hein, on est une demi-douzaine à tout casser. Hein. Eh bien, la première pièce de l'acte d'accusation est un faux. Il y a une falsification matérielle. La date a été trafiquée. Et elle a été trafiquée pour une raison très précise. C'est que ils ont commencé par mettre que c'était le 24 juin, qu'il aurait été en situation de désertion. Il n'était pas du tout déserteur, bien évidemment. Mais en fait, c'était pas possible. Parce qu'à ce moment-là, l'armistice entrait en vigueur. Il ne peut pas y avoir désertion devant l'ennemi s'il n'y a plus d'ennemis. N'est-ce pas? Donc, alors, on a fait remonter ça au 22, et tout d'un coup, je me rends compte, en regardant il y avait une surcharge à la machine à écrire. Parce qu'il fallait à tout prix, non seulement faire un faux intellectuel en disant qu'il était déserteur en présence de l'ennemi, mais faire un faux matériel pour le faire condamner. Et la deuxième chose, c'est, je me suis rendu compte aussi d'une chose, j'ai regardé ça de très près, l'histoire du Massilia. Hélène me disait, Gérard, il faut que tu expliques bien le Massilia parce que personne n'y comprend rien à cette histoire. Et c'est vrai, tu avais raison de me dire ça. Alors je me suis dit, bon, là, il faut que je regarde bien le Massilia. Et le Massilia, en fait, c'est le président du Conseil, le dernier président du Conseil de la Troisième République, le 103e, qui s'appelle Pétain, puisqu'il a été désigné par Lebrun à Bordeaux, va sur les objurgations de Hériot, président de la Chambre, et de Jeannenet, président du Sénat, et du président de la République, Lebrun, dire, bon, on va partir parce que, bon, d'accord, on demande l'armistice, mais il ne faut pas rester sous le feu des armées ennemies. Bon. Et donc, on organise le départ sur le Massilia. Mais c'est Darlan, l'amiral Darlan, qui est amiral de la flotte, et qui est ministre de la Marine de Pétain, déjà, qui va faire un tour de passe-passe absolument inouï. D'abord, il envoie un mot au président de chambre en disant « Voilà, les parlementaires pourront prendre le Massilia ». Le lendemain, il dit « Le Massilia ne peut pas remonter jusqu'à Bordeaux parce que la Garonne est minée », ce qui est absolument faux. Il ment. Enfin, ça, je le démontre de manière péremptoire. Il ment. Et le lendemain, le jour où ils partent, où les parlementaires rejoignent le Massilia, donc le 20 juin, 40, eh bien, il fait écrire par le Questeur Barthes la phrase suivante, les parlementaires, virgule, qui le désire, virgule, partiront sur la... Et il transforme, par cette incise, ce départ programmé, décidé, de manière politique, etc., en une fuite. Et après, immédiatement, toute la presse censurée, etc., s'en prendra avec une violence inouïe aux parlementaires républicains qui voulaient aller résister en... stigmatisant la tribu mélangée des enfants de la veuve et d'Israël, n'est-ce pas? Voilà. Et Vichy naît là-dessus.
Jean-Michel, tu souhaitais intervenir. Est-ce que tu veux venir par là et prendre le micro? Ce serait bien, puisqu'on est en enregistre en direct.
Bien, ben c'est une... Ça va, là? Oui. C'est une excellente soirée qui commence avec la présence de Gérard Boulanger, qu'on a vu ici il y a environ 16 ans, et bien sûr Hélène, dont c'est la première visite, je crois, au cercle Bernard Lazare.
Pas dans la maison.
Oui.
Je connais bien.
Dans la maison, tu connais le cercle, puisque... avec qui nous nous croisons très souvent au cours de cérémonies, d'expositions. Alors je voudrais seulement commencer par, c'est pas une question, les propos de Gérard Boulanger, présent pour dire qu'effectivement, post-mortem, on continue à le poursuivre d'une façon odieuse, car, je cite un fait concret, il est un journal d'anciens combattants, le journal de l'UNC, l'Union Nationale des Combattants, qui sort à presque plus, enfin qui correspond à plusieurs centaines de milliers de citoyens de tout niveau, aussi bien de la société, qui fait un texte appelant à une pétition, c'est une supplique en fait, au président de la République, demandant de ne pas faire entrer Jean Zay au Panthéon compte tenu de ce fameux histoire de quand il avait 19 ans, ce qu'on appelait le torchon, voilà. Alors je crois qu'effectivement ça mérite maintenant, pour tous les, comment dirais-je, les inconditionnels de la liberté de penser, de faire une contre-manifestation et de ne pas laisser cela, parce que ce journal, c'est le journal de l'Union des combattants qui paraît à tout le monde et qui sort un grand nombre. Maintenant, ce qui concerne Jean Zay, il a été évoqué son appartenance à la maçonnerie. Il a été initié très jeune également à Lyon. Et lorsqu'il était... À Orléans, et il fréquentait la loge, retenez bien le nom, parce que ça aussi c'est symbolique, la loge Jacques de Molay. À Orléans. Et il continuait de façon assidue à fréquenter sa loge, même lorsqu'il était, comme on dit, aux affaires, il s'asseyait, il entrait, toujours un peu en retard, il entrait, il s'asseyait, il écoutait, il repartait. Alors, il est un livre, moi c'est par la maçonnerie que j'ai découvert Marcel Jean Zay. Il est un agrégé d'histoire, lui lyonnais, voilà. Marcel Ruby, j'avais environ 25 ans, qui était un chercheur, qui était radical également, à la direction du Parti radical, et qui a fait de nombreuses recherches sur Jean Zay. Il a malheureusement sorti un livre qui malheureusement n'a pas été très 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 diffusé sur Jean Zay. Et il avait retrouvé un texte du président, enfin du chef du gouvernement de l'époque, bien sûr, de Léon Blum, du Front Populaire. Et ça, je me rappelle te l'avoir appris, tu ne le savais pas, que Léon Blum a dit que la France, les républiques, la République, avait connu bien des ministres, soit de l'instruction publique, soit de l'éducation nationale, comme on les appelait alors, mais que pour lui... il n'y avait qu'un ministre de l'intelligence, et c'est à ton père qu'il faisait allusion. Et ça, c'est quand même dans la bouche de Léon Blum, les propos de Léon Blum, un argument qui mérite d'être connu et d'être cité. D'autre part aussi, il a augmenté le temps de la scolarité de 12 à 14 ans, c'est énorme. Le Festival de Cannes est là. Je ferai quand même une réflexion un peu désagréable. Non, pas pour vous, pour le Festival de Cannes. Parce qu'il a été seulement au cours, je l'ai vu entièrement, de la cérémonie de clôture, où on remet les palmes, Wilson, Lambert Wilson, n'a pas cité, a murmuré une fois, il dit, puisqu'on parle de Jean Zay, qu'il va venir au Panthéon, c'est lui qui est à l'origine du Festival de Cannes. C'est tout, parce que depuis 1947 jusqu'à 2015, jamais le nom de Jean Zay n'a été cité au cours d'un festival. Et maintenant, c'est réparé, et j'espère que chaque fois on le citera. Et peut-être, je ne sais pas à qui m'adresser, il serait peut-être bon de rééditer cette fameuse affiche où on voit Cannes 1er 9 septembre, Festival du cinéma. Parce que c'est quand même quelque chose avec les moyens modernes qui existe et qui pourrait avoir la place dans certains bureaux, chez certains producteurs, réalisateurs. Ça me paraît quelque chose de symboliquement très important. Alors, Jean Zay, c'est aussi, et je vais presque terminer par là, parce que je marque un regret, il n'a pas été suivi. C'est l'idée de l'ENA. Car l'ENA, lorsqu'on lit le texte, je l'ai lu, pensé par Jean Zay, ce n'est plus l'ENA d'aujourd'hui. Car c'était vraiment... D'accord, René Boulanger. D'accord, Maître Boulanger. Oui, car l'ENA d'aujourd'hui n'a rien à voir, et ça, je crois qu'il fallait le souligner, avec ce projet. Il ne voulait pas faire partie... Pour lui, l'ENA ne devait pas être une sorte de réseau, entre guillemets, qui se partageait le pouvoir dans, que ce soit l'administration, la haute administration, et, ou même la haute industrie maintenant, partout, ou la police. Alors, il est au Panthéon, comme m'a dit hier, à la fin de son discours, le président de la République parlant des quatre, vous êtes ici chez vous, il est chez lui, et à côté, bien sûr, de Jaurès, de Schœlcher, de beaucoup d'autres encore, mais à côté d'un homme dont on apprenait autrefois à l'école communale la récitation, à l'école primaire, la communale, comme on disait alors, et je crois qu'on n'apprend plus, je souhaite que ça revienne, ces quelques vers de Victor Hugo qu'on peut lui adresser, qu'on peut leur adresser. Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie ont droit qu'à leur tombeau la foule vienne et prie. Merci.
Merci Jean-Michel. Hélène voulait.
Oui, non, juste sur Cannes, bon, c'est vrai, moi, on m'a dit qu'il y avait eu cet hommage, mais en 2013, on a quand même été invités, Catherine et moi, à l'inauguration d'une plaque au palais du festival, et dont je dis souvent que la surface était à la mesure de l'ampleur de l'oubli, parce que c'était une plaque énorme, et qui a été mise à la. Sur la volonté du maire de Cannes, enfin, l'ancien maire, Prochamp, qui n'a pas été réélu, là je crois qu'il ne s'est pas représenté, mais c'était vraiment sa volonté à lui. Ce n'était pas vraiment la volonté de la direction du festival. Donc cette plaque est là depuis 2013, donc c'est une toute petite précision. Et quant à l'ENA, alors c'est vrai que le projet de l'ENA avait un but, c'est d'assurer le recrutement démocratique des fonctionnaires. Il y a cette phrase très belle que je cite toujours, et dans Souvenirs et Solitude, le livre que mon père a écrit en prison, qui est actuellement en poche, il dit « Quel enfant du peuple a jamais pu être ambassadeur ?» C'est vraiment la volonté là, d'ouvrir cette école, alors qu'avant, il y avait l'école libre des sciences politiques, qui était très élitiste, et d'ailleurs qui a fait obstruction à ce projet de loi, si bien que le projet de loi a été voté à la Chambre des députés, mais bloqué au Sénat. Et c'est pour ça qu'il n'a pas été voté à la guerre, et donc repris à la Libération. Voilà simplement.
Je voudrais dire juste un petit mot sur l'ENA, s'il te plaît, Claude. Sur l'ENA. Celui-ci marche mieux ? D'accord. Et celui-là est entièrement démontable. Sur l'ENA, trois choses. La première chose, c'est que effectivement. Quand il a présenté ce projet, l'ENA, ce projet a été combattu avec virulence par un jeune auditeur au Conseil d'État qui s'appelait Michel Debré. Et après-guerre, et si vous regardez les livres d'histoire à l'heure actuelle, mais je pense que ça va changer, après-guerre, l'ENA a été créé, et c'est Michel Debré qui passait pour le père de l'ENA alors qu'il avait combattu le projet. Mais je suis bien d'accord avec toi sur le fait que c'était plus tout à fait le même projet. Parce qu'en fait, Jean Zay disait il faut que les fils du peuple puissent devenir ambassadeurs. Hein, c'est ça. Les fils du peuple puissent devenir ambassadeurs. Et ce qu'on peut constater maintenant, c'est qu'avec l'ENA telle qu'elle est organisée, c'est que les fils d'ambassadeurs deviennent ambassadeurs, mais en passant par l'ENA. Donc, effectivement, c'est pas tout à fait le but. Ce qui fait que, moi, je me rends compte que quand je cite, j'ai fait des dizaines de conférences sur Jean Zay avec le bouquin, et à chaque fois que je dis, bon, ben Jean Zay, il a fait ça, et à un moment donné, je dis, et il est l'inventeur de l'ENA. Et il y a toujours quelqu'un qui me dit, c'est pas forcément ce qu'il a fait de mieux. Voilà. Mais parce que c'est pas le projet initial, voilà.
Oui, à propos justement de du drapeau dont on a parlé, donc, le procès qui lui a été fait à partir de ça, c'est le procès d'antipatriotisme. De toute façon, dans le discours antisémite, le juif ne peut, de toute façon, n'est jamais français. Il y a des lignes et des lignes. Vous savez, on en a comme ça des textes antisémites dans des journaux, etc., concernant mon père. Donc, il est toujours visé comme étranger, apatride, alors qu'il appartient à une famille de juifs alsaciens depuis des générations et des générations. Donc ce procès antipatriotisme est fait malgré alors tout ce que l'année dernière, il y a suite aux premières manifestations de ces associations d'anciens militaires, il y a un texte qui est signé des dix parmi les plus grands historiens de la Deuxième Guerre mondiale. En tête, Antoine Pro, Annette Vivorca, Azema, les grands de la Deuxième Guerre mondiale, qui a mis au point cette affaire-là en rappelant alors, le patriotisme de Jean Zay, qui va en effet dès 1933 réclamer la plus grande fermeté par rapport à Hitler. Il a réitéré ça pendant toutes les années 30. 36, il est partisan de l'aide aux républicains espagnols. 38, il est contre violemment les accords de Munich et il se heurte à Bonnet, qui est le ministre des Affaires étrangères. Il s'engage le 1er septembre 39. Le Massilia, il part pour continuer la lutte en Afrique du Nord. Et le texte des historiens disait, et Antoine Pro le répète, quelqu'un qui meurt en criant « Vive la France », on n'a qu'à se taire, en effet. Mais ça a été rappelé par ces historiens, mais rien ne fera taire ces gens-là, je crois. La preuve, c'est que 70 ans après, en termes identiques aux années 30, mais vraiment identiques, moi j'ai été avec des années 30, ça revient de la même façon.
Merci à vous, parce que moi j'ai appris des tonnes de choses ce soir, et je dois reconnaître aussi que des quatre personnalités qui ont été panthéonisées, c'est un nouveau terme, pas très joli, mais...
On peut dire qu'ils sont entrés au
panthéon. Et qui sont entrés au panthéon, c'est peut-être plus français. J'avoue que votre père était celui dont je connaissais moins l'histoire. Ma question ce soir, on a appris beaucoup de choses sur l'homme public. Est-ce que vous pouvez dire un mot sur le père qu'il a été ?
Alors, un père que moi je n'ai connu qu'en prison, puisque pour rappeler très rapidement, il débarque du Massilia, Gérard a rappelé l'histoire, il débarque de Massilia, là, il y a une violente campagne contre les déserteurs du Massilia, évidemment très fortement teintée d'antisémitisme, et il va être le premier arrêté. Le 16 août 1940, on le convoque au commissariat, on le met dans un bateau et on le rapatrie à Clermont-Ferrand. Ma mère était avec lui sur le bateau parce que ce soit Mendès France et les autres passagers du Massilia avaient emmené leur famille, en tout cas très proche, par peur que, comme ils voulaient continuer la lutte en Afrique du Nord, ces familles deviennent des otages. Donc ma mère, ma sœur qui est un peu plus âgée que moi, et ma mère était enceinte de moi, était sur le Massilia. Donc il est transféré à Clermont-Ferrand et ma mère ne peut pas le suivre. Donc elle va rester 9 mois au Maroc et moi je nais le 27 août, c'est-à-dire 10 jours après son arrestation. Dans un climat que Mendès France se rappelle dans Le Chagrin et la Pitié, je ne sais pas si vous avez vu ce film, il raconte que la campagne orchestrée par Vichy était telle que ma mère a eu les pires difficultés à trouver une clinique pour l'accoucher. Elle arrive quand même, grâce à un couple de juifs marocains dont j'ai entendu parler toute mon enfance et qui pour moi sont vraiment des figures lumineuses, les Hamzalak, je me souviens encore de leur nom, grâce à eux, elle a pu quand même trouver une sage-femme qui l'accouche. C'est dire la violence de cette campagne. Donc elle le rejoint à Rion, à ce moment-là il est à la prison de Rion, en fin mai 1941. Et donc moi je le vois pour la première fois, j'ai donc 9 mois. Et ce qui va se passer, c'est que à ce moment-là, il a obtenu grâce à son avocat Alexandre Varenne, qui est par ailleurs le fondateur du journal La Montagne, il a obtenu un statut proche du statut de prisonnier politique. C'est pas tout à fait ça, mais c'est proche. C'est-à-dire, un, le droit de recevoir les visites de sa famille et la visite d'amis, mais sur des listes, évidemment, visées par l'administration pénitentiaire. Deux, le droit d'avoir des journaux, alors, des journaux qu'on pouvait lire à l'époque, vous savez que la presse n'était pas libre. Et trois, le droit d'avoir du tabac. Bon, c'est important, le tabac. Donc, on peut le rendre visite tous les jours. Alors, ce régime-là ne va pas durer jusqu'en 1944. Hein. Il va se durcir à partir, en gros, de l'invasion par les Allemands de la zone dite libre. Mais enfin, pendant 1941-1942, ce qui se passe souvent, c'est que ma mère arrive le matin avec une gamelle, parce qu'il fallait compléter l'ordinaire de la prison, me dépose dans la prison et s'en va pour faire des démarches. Quant à ma sœur, elle va à l'école. Donc j'ai passé, la question c'était sur quel père, j'ai passé des journées entières avec lui au fond, j'ai passé les trois premières années entre les murs d'une cellule. Ça, je l'ai réalisé très tard, mais enfin, c'est un peu ça. Mais je n'ai pas de souvenir direct de cette période-là, parce que j'avais, ben, vous voyez, j'avais pas 4 ans quand il est mort. En revanche, je me suis beaucoup occupée de la publication. Alors, comme publication, il y a ce livre-là dont j'ai parlé tout à l'heure, Souvenirs et solitude, qui est un journal qui n'est pas tout à fait un journal, mais enfin qui est très écrit. C'est un écrivain très composé qui est un livre. Mais il écrit beaucoup en prison, parce que vous savez que les prisonniers, ils survivent grâce... Lui, ça a été grâce à l'écriture. Vraiment, l'écriture l'a aidé à tenir le coup. Ce jugement dont Gérard a parlé du 4 octobre 40, entre parenthèses, c'est le lendemain du statut des Juifs, c'est pas une date innocente quand même, ce procès le terrasse absolument, parce que jusque-là, il a, on va dire, confiance, il pense que cette accusation est tellement absurde, hein, puisque on l'accuse de désertion alors que l'ennemi est à 90 km. Désertion en présence de l'ennemi, en plus. Bon, donc, il pense qu'il va montrer son innocence, qu'elle va être reconnue très rapidement, mais pas du tout, il voit que c'est un procès politique. Donc, il est absolument terrassé, et pendant quelques jours, il n'arrive pas à écrire. Mais sinon, il écrit à ma mère tous les jours. Tant qu'ils sont séparés, c'est-à-dire d'août 1940 à mai 1941. Et là, on voit quel père il était. C'était pour répondre à votre question. Parce que c'est un père, évidemment, extraordinairement attentif, qui, quand ma mère est au Maroc, non seulement s'informe de tout ce qui peut nous arriver, mais qui a tous les détails, parce que ma mère lui envoie en effet tous les détails des lettres de 4 pages. Je dis souvent qu'on est... Il n'y a pas beaucoup d'enfants qui ont autant de détails sur leur vie quotidienne du très jeune âge que moi. Parce qu'elle lui raconte tout. Et ensuite, quand on va en prison, il s'occupe de nous. Alors, quand elle est encore au Maroc, par exemple, il se soucie beaucoup de l'éducation, de notre éducation. Alors, il dit, par exemple, à ma mère, il faut faire attention, parce que quand il y a un bébé qui naît, ben, il peut y avoir des jalousies de la grande sœur. Donc, pendant, il y a 2 pages de conseils, comme ça, vous vous rendez compte qu'il est en prison, quand même. Il est en prison dans ces circonstances, quand même, tragiques, parce que La révolte, je ne sais pas comment qualifier ça, c'est une torture, ce jugement. Et ça ne va pas s'arrêter. Et on retrouve exactement la même chose chez Pierre Mendès-France, dans le très beau livre Liberté, liberté chérie. Mendès a été condamné, enfin, a été jugé pour désertion. Lui, il a été condamné à 8 ans de prison. Pour la même... oui, je peux ouvrir une parenthèse, là. Ils étaient 4 officiers parlementaires à être jugés. Pour le même motif, désertion. Il y avait Jean Zay, vous allez comprendre l'ordre, Jean Zay, Pierre Mendès-France, Viennot et Wilser. Même motif, exactement même circonstance. Jean Zay est condamné à la dégradation à perpétuité, dégradation militaire. Il est Front populaire, ministre à plein temps, juif, franc-maçon, enfin tout ce qu'on a dit. Adversaire... des accords de Munich, etc. Ça a été rappelé. Mendès, qui n'était, si je puis dire, que secrétaire d'État, mais qui était tout le reste, 8 ans. 6, pardon, 6. Viennot, qui n'était pas juif, qui n'était pas ministre, sursis. Et le dernier, Wilser, qui était rien de tout ça, et d'une droite modérée, je crois, de droite, acquitté. Exactement. Alors, même tribunal militaire, les mêmes personnes, le même motif. Je rappelle que ce tribunal militaire était celui qui avait jugé De Gaulle pour désertion et condamné à mort De Gaulle pour désertion quelques mois avant. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, quel père ? Ben, évidemment, un père qui, dans les conditions où il était... à chercher à nous protéger le plus possible. D'ailleurs, avec ma mère, ils tiennent en prison un petit cahier, sur un cahier d'écolier, qu'il appelle Journal des petites filles, où il note tout au jour le jour. Alors, c'est lui qui fait ça. Et il y a un moment, un passage qu'il a encadré, et où il dit, si un jour Catherine et Hélène lisent ces lignes, elles s'étonneront, alors il s'agit du cahier là, elles s'étonneront de ne pas y voir mention des événements tragiques qu'on poursuit. Et puis il explique que c'est volontaire, etc. Donc, voilà quel père il était, dont je n'ai pas de souvenir direct, mais je sais donc par ce livre, dans lequel il y a, qu'on a réédité récemment, donc où il y a des fragments, enfin un choix de lettres, mais aussi sont publiés intégralement dans ce volume des petits carnets. Alors, il tenait en prison des petits carnets comme ça. Je crois que la taille permettait de les mettre dans la poche pour échapper aux fouilles, parce qu'il était fouillé, surtout à partir de 1943, très souvent. Et donc, il note au jour le jour tout ce qui se passe, du plus petit événement à des événements plus importants. Parce que, en tout cas, en 1941-1942, il reçoit des visites de ses anciens membres de son cabinet, comme je l'ai dit, mais qui viennent de s'engager pratiquement tous dans la résistance et en particulier dans le réseau du Musée de l'Homme. Vous savez que c'est un des premiers réseaux. Bon, Marcel Abraham, Jean Cassou, Pierre Berthaud, tout ça, c'est des membres de son cabinet qui sont engagés dans ce réseau. D'ailleurs, les autres panthéonisés, tous les trois ont été dans le réseau du Musée de l'Homme. Tous les trois, je crois. Et ses amis lui apportent des nouvelles. Alors ça, on voit ça dans la correspondance. Des nouvelles assez... Par exemple, puisqu'on parlait de Pierre Mendès-France, vous savez qu'ils étaient très très amis, le lendemain même du jour où Mendès-France s'embarque en Angleterre, du Portugal, enfin c'est une histoire un peu compliquée, il le sait, donc on ne comprend pas très bien comment il sait si vite les choses. Donc, comme dit Antoine Pro, les murs sont poreux, quoi. Et c'est comme ça qu'il va, d'ailleurs, participer à sa façon, comme prisonnier par l'écriture, à la résistance, dans la mesure où il fait passer, toujours par ma mère, au fond de mon landau, des documents clandestins, dont certains vont se retrouver dans une revue de l'OCM, l'Organisation civile et militaire. Alors, c'est des projets, vous savez que les résistants pensaient, tout en combattant, pensaient beaucoup à la République qu'il allait falloir reconstruire. Et donc, il y a en particulier, enfin, il y a des projets, le projet d'organisation du ministère, projet d'un futur, enfin, il voyait ça comme ça, ministère de la vie culturelle, etc., etc. Il fait passer aussi les notes du procès de Rion. Alors, je rappelle le procès de Rion, c'est le procès de Blum et d'autres responsables du Front populaire. Vichy veut les faire condamner. Donc, c'est un procès où il est interdit aux journalistes de publier quoi que ce soit. Mais les sténos du procès passent, parce que Blum et les autres, pendant le procès, sont logés. Blum est dans la cellule au-dessus de celle de mon père, à Rion. Et le soir, via, je pense, la future femme de Blum, qui va voir mon père, les sténos du procès passent dans la cellule de Janset, qui les condense, qui les résume, qui les rend lisibles et publiables par la presse de la résistance. Et ces comptes rendus passent toujours clandestinement dans mon landau. Et c'est important, parce que, c'est très important, parce que vous savez que ce procès, enfin Blum et les autres vont tellement bien se défendre et tellement bien démonter cette accusation que Vichy veut leur faire porter, que ça tourne, il tourne à la déconfiture de Vichy, et que c'est Hitler lui-même qui va ordonner à Vichy de l'arrêter. Et Vichy va être obligé d'arrêter avant son terme ce procès. Donc, vous voyez, c'est une façon de résister par l'écriture dans les conditions d'un prisonnier, mais avec une certaine efficacité, en particulier sur cet exemple-là.
Merci, Alain.
Je voulais juste dire que en ce qui concerne le CNRS et le Palais de la Découverte, que j'ai beaucoup fréquenté comme gamin pour le Palais de la Découverte, et parce que j'avais énormément de collègues au CNRS et que je collaborais avec des gens du CNRS, j'ai appris par hasard, par quelqu'un qui devait porter un tout petit numéro de membre du CNRS, parce qu'elle a été recrutée en 1938-1939, enfin avant la guerre, mais que pour tout le monde, le CNRS aurait été créé après la guerre, et on associe toujours, alors je crois Joliot-Curie, il me semble.
Jean Perrin.
Et Jean Perrin, plus pour le Palais de la Découverte, mais peut-être aussi pour le CNRS. Et Jean Zay est complètement passé sous silence. J'allais dire, même dans ce milieu, qui on aurait pu penser plus favorable à la vérité d'une part, et puis à la reconnaissance du mérite de Jean Zay. J'avais une autre question. Enfin, peut-être que je me trompe dans certains petits détails.
Non, juste dire qu'en effet, le décret qui crée le CNRS paraît en octobre 39. Janzen n'est plus ministre depuis un mois. Donc, ce n'est pas lui qui le signe. D'accord. Mais vous doutez bien que le décret était évidemment prêt. Et le CNRS, là aussi, c'est un peu comme le Festival de Cannes, il y a eu un hommage assez solennel du CNRS à son créateur l'année dernière, en 2014.
Non, je suis parti à la retraite proto. Alors, j'avais une autre question pour rapprocher un peu avec l'actualité. Vous avez parlé du fait qu'on a associé liberté, égalité, fraternité et on a adjoint laïcité aux quatre entrées au Panthéon et que c'était un petit peu arbitraire et que vous préférez mettre le terme de république pour les quatre. Alors, je voudrais vous demander... Est-ce que comment vous ressentez, alors comment je vais dire pour pas être trop polémique, l'accaparement, disons, du terme de république par une partie de la classe politique et éventuellement de la...
Voilà, je vais vous répondre très vite. Alors d'abord, oui, je vais répondre à ça, mais d'abord, sur le terme république, c'est le président lui-même, en février dernier, qui a en effet mis un terme à chacun des panthéonisés, mais qui a terminé en disant Janzès, c'est la République. Hein. Donc, moi, je ne suis pas du tout contre la laïcité, bien sûr, puisque vous savez que c'est lui qui a, en 1936, publié une circulaire qui dit que, qui interdit les signes politiques, d'appartenance politique, parce qu'à l'époque, ce qui menaçait, les propagandes qui menaçaient l'intérieur des écoles, c'était les ligues d'extrême droite. Donc pour lui, le plus urgent, c'est d'interdire les signes d'appartenance politique et les propagandes politiques à l'intérieur des écoles. Vous savez qu'il y a une citation de lui qui est très souvent dite, c'est « l'école doit être l'asile inviolable », etc. Enfin, j'ai plus les termes. Et l'année suivante, il l'étend aux signes religieux. Donc laïcité, très bien, il incarne la laïcité. D'ailleurs, il est beaucoup resté dans les mémoires, comme laïcité même. Mais alors sur la récupération du terme politique, du terme république, je crois en avoir parlé tout à l'heure, il y a deux concepts qui sont raptés, parce que c'est vraiment un rapt par l'extrême droite, c'est la république et c'est la laïcité. Pour ne pas la nommer, Marine Le Pen se fait la championne de la laïcité, ce qui est quand même un comble. Et on sait très bien ce que ça cache. On sait très bien ce que ça dissimule, en fait. Mais qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que vous voulez que j'en pense?
Sur ce point, parce que ça c'est très important, sur la question du vocabulaire. Je crois que c'est Bruno Maigret qui disait « les mots sont des armes ». Je veux dire, du côté de l'extrême droite, cette idée qu'il faut subvertir le langage pour gagner la bataille politique, ce sont des idéologues d'extrême droite qui, après mai 68, qui étaient aux Grèce, la Nouvelle Droite, etc., hein, de Benoît, tout ça, etc., qui ont fait tout ce travail. Ils ont lu Gramsci, qui est un auteur marxiste, mais ils ont utilisé les concepts Gramsci, ils les ont retournés, et ils ont compris que si on veut gagner la bataille politique, il faut gagner... la bataille des idées, d'abord. Et donc, il y a eu tout un travail sémantique qui a été fait et qui a donné ses fruits depuis quelques années de manière très visible. Alors, je rejoins évidemment ce que dit Hélène là-dessus, sur l'utilisation des mots. Ils nous ont volé nos mots, la République, la laïcité, etc., etc. Il y a un autre mot sur lequel on n'y fait pas très attention en règle générale, et moi je crois que c'est très important. Maintenant, on entend l'extrême droite dire « nous sommes les patriotes ». Mais moi je suis désolé, ils sont peut-être des nationalistes, mais ils ne sont pas des patriotes. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que les nationalistes en France... ont toujours trahi, ne se sont jamais comportés en patriotes, que ce soit en 1870, que ce soit en 1940. Ce sont des nationalistes, et ce sont des nationalistes qui, finalement, bradent le pays, vendent le pays, et ils ne sont pas patriotes. Donc, moi, je suis désolé, mais Le patriotisme, c'est tout à fait autre chose. Le patriotisme, c'est quand le peuple de Paris va se soulever pendant la Commune pour empêcher qu'on donne la France aux armées prussiennes, parce que à l'époque, les nantis voulaient que les reîtres qui venaient d'outre-Rhin matent le peuple qui devenait dangereux pour les privilèges. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Donc moi, je n'admets pas qu'à l'extrême droite, on se prétende patriote alors qu'on ne l'est pas.
Merci. Il y a Claude qui est là. Je voudrais pas. Je voudrais pas dépasser mon maître. Je voudrais pas dépasser mon maître. Voilà, ben, je voulais dire à Hélène que je la remerciais énormément pour le travail qu'elle fait, le travail au CERCIL, sa représentation à Beaune-la-Rolande et à Pithiviers chaque année. Et je sais que, avant de connaître Hélène, le nom de Zay, je ne connaissais pas. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un travail de mémoire qui, à travers la scolarité, n'a jamais été fait. Et je le regrette. En fin de compte, quand j'ai connu donc Hélène, quand je l'ai vue la première fois, je me suis dit, tiens, Mouchard Zay. Et c'est là que j'ai appris que son père était un politique, franc-maçon, juif par son père, protestant par sa mère. Mais, donc j'ai fait quelques recherches. Je voulais savoir. Et c'est là que j'ai appris l'importance de Jean Zay. Et je trouve qu'il mérite de rentrer largement au Panthéon. Je trouve que ces associations d'anciens combattants qui écrivent au président « c'est une honte », on devrait les disqualifier. Et puis, maintenant, puisque vous avez des questions que je voulais poser, mais vous les avez largement expliquées, je voudrais savoir que lorsque, après la guerre, on a retrouvé un des miliciens assassins de votre père, comment vous avez ressenti sa condamnation, comment vous avez ressenti son procès?
Moi, j'étais très jeune. Il a été jugé rapidement pour... Pour préciser les circonstances, ça a été très long. J'ai parlé tout à l'heure de 48, un des assassins donc est arrêté. Après un périple invraisemblable, c'est-à-dire comme beaucoup de collaborateurs, il part en Allemagne. Ensuite, il descend en Italie, où il est caché dans un couvent de bonnes sœurs. Et il réussit à s'embarquer sur un bateau pour l'Amérique du Sud. Beaucoup ont fait ça. C'est l'itinéraire classique. Mais à ce moment-là, il y a un avis de recherche qui est lancé par la police américaine, parce qu'il y a déjà eu toute une enquête qui a commencé, en fait, début 45. Donc, une enquête très longue, avec des circonstances juridiques très compliquées que mon ami Gérard, en tant qu'avocat, dont il traite dans son bouquin, donc je n'y reviens pas. Ça a été très long, très compliqué. Et finalement... donc 48, il avoue, mais simplement pour vous montrer un peu le type de problème qui se posait, à un moment, on se demande s'il doit être jugé comme assassin ordinaire, auquel cas il relève de la cour d'assises, ou bien comme milicien, auquel cas il relève d'une cour de justice, mais qui sont devenus, enfin, il est jugé finalement comme milicien. Et c'est en 1953 que son procès arrive au tribunal militaire de Lyon. Et là, comme il est jugé comme milicien, on va, en 2 jours de procès, examiner tout un tas d'affaires, de crimes qu'il a fait, parce qu'il a déjà été condamné à mort, d'ailleurs, par une cour de justice, je crois, je ne sais plus quelle année, en 1946 ou 1947, je ne sais plus. Par contre, tout basse, parce qu'il s'était caché. Donc, c'est, vous voyez la complication. Mais en tout cas, il est jugé comme milicien. Donc, l'assassinat de Jean Zay, en fait, il en est très peu question. Et en particulier, il avoue. Donc, voilà, il avoue. Il raconte les circonstances. C'est lui qui dit qu'il est mort en criant « Vive la France », etc. Il raconte tout. Mais les responsabilités réelles, ça n'est pas examiné du tout. Et or, les responsables, c'est-à-dire Darnan, c'est-à-dire Clémoz, le chef de cabinet de Darnan, ils ont, eux, été exécutés très vite, en 1945. Hein, alors là, ça a été tellement vite qu'on se demande quand même si certains ne craignaient pas qu'ils disent un certain nombre de choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que rien n'est élucidé précisément des vraies responsabilités. Et alors moi, à l'époque, je suis très jeune, j'ai 13 ans. Oui, j'ai 13 ans. Mais franchement, ce que je sais simplement, c'est qu'il a été condamné aux travaux forcés à perpétuité. Et que des cinéastes qui ont fait un film récemment qui s'appelle Un crime français, je ne sais pas si vous l'avez vu, l'historienne comment s'appelle, Dominique Messica a trouvé qu'il avait été libéré au bout de 2 ans. Je lui ai demandé si elle était sûre de ça, parce que ma mère ne l'a jamais su et c'est elle qui nous l'a appris. Donc quand ce film a été tourné il y a 4 ans, et elle me dit que oui, elle l'a vérifié dans les archives de la justice militaire. Voilà. Mais sans doute parce que j'ai évacué ces souvenirs-là, parce que vous savez, ces années d'après-guerre ont été quand même, pour un jeune enfant, très difficiles, en particulier cette absence. Et puis cette absence, moi j'ai longtemps cru que mon père allait revenir, même quand je savais qu'il ne reviendrait pas. Mais c'est ça, je sais bien, mais quand même. Donc, je n'ai pas le souvenir du jour où j'ai appris ce verdict, mais je crois que ma mère a, là, elle aussi, beaucoup essayé de nous en protéger. Et je me souviens qu'elle partait tous les jours pratiquement à Paris. Elle a passé toutes ces années-là, de 1945 à 1953, en procès. Le premier procès, 1945, c'est le procès Pétain. Elle demande à être entendue comme témoin, parce qu'elle pense que Pétain, en le jugeant de cette façon-là, en le maintenant en prison, etc., le livrait au bras des assassins. Elle ne peut pas être entendue comme témoin pour des raisons juridiques. Alors elle écrit une lettre au président Montgibaud, qui était le président du tribunal, une très belle lettre qui est publiée là d'ailleurs, et où elle désigne Pétain comme le responsable final de cet assassinat, même si Laval a dit qu'il n'était pour rien, et Pétain, etc. Mais le président Montgibaud déclare lors d'une audience: j'ai reçu une lettre de Madame Chancet, je ne la lirai pas, car je ne veux pas que le tribunal soit influencé par des cris de vengeance, aussi juste soit-il. Ça n'était pas des cris de vengeance, c'était une demande de justice, mais cette lettre n'est pas lue. Donc Pétain, pas coupable. Deuxième procès, 1948. Elle assigne les héritiers des journaux Gringoire et Je suis partout, qui ont publié en 1941, donc en pleine occupation, des extraits d'un journal qu'il avait tenu au moment des accords de Munich. Vous savez qu'au Conseil des ministres, on n'a pas le droit de prendre des notes, donc lui, il notait le soir. Et donc, là aussi, ces notes sont volées, vendues à ces journaux, et qu'il les publie tronqués, avec un commentaire de Henriot, d'un antisémitisme déchaîné également. Et ma mère, donc, en 1948, poursuit les héritiers pour avoir publié sans autorisation, pour avoir falsifié, et troisièmement, pour provocation au meurtre. Elle obtient satisfaction pour les deux premiers motifs, mais pas pour le troisième, c'est-à-dire provocation au meurtre. Pourquoi? Parce que les juges disent... on ne sait pas dans quelles circonstances, à ce moment-là, en 1948, c'était juste avant l'arrestation de l'assassin, on ne sait pas comment Jean Zay est mort, etc. Donc on ne peut pas dire que ces idéologues d'extrême droite ont joué un rôle dans son assassinat. Et puis le troisième procès de Velle, où il est, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il est condamné avec les circonstances atténuantes. Et quelles sont ces circonstances atténuantes? Ça, c'est l'avocat Floriot, bien connu, qui plaide l'irresponsabilité en disant que Devel est un pauvre type qui a été influencé par tout ce qu'il a lu, Gringoire, Je suis partout, etc. Et donc, circonstances atténuantes. Donc, vous voyez que ces trois procès disent exactement le contraire. Procès Pétain, bon, on n'examine pas la responsabilité de Pétain, et pourtant elle est forte, comme vous le savez. 48, c'est pas ces idéologues d'extrême droite qui ont armé le bras des assassins. Et 53, ce sont les idéologues de l'extrême droite qui ont armé le bras des assassins. Donc ma mère a passé, au fond, toutes ces années, jusqu'en 53, beaucoup en procès, et qui ont été très, sûrement très difficiles, douloureux, mais elle nous en a peu parlé, parce qu'elle voulait nous protéger de toute cette violence.
Je sais pas, David, s'il y a encore des questions, est-ce que vous voulez encore intervenir, Gérard ?
Sûrement, Gérard.
Oui, c'est peut-être aussi l'occasion de dire le travail extraordinaire de l'admirable Madeleine Zé, qui pendant qui était c'était un couple très très uni et qui a partagé toutes ses batailles avant et a partagé sa détention, et quand il est mort et que elle a eu la certitude qu'il était mort, parce qu'il a fallu encore des années pour être sûr. La milice a failli gagner sur l'effacement mémoriel. Mais de la même manière, d'une certaine manière, la milice, les maurassiens, etc., continuent à gagner quand on continue à faire le procès de Jean Zé ne doit pas être au Panthéon parce que c'était l'anti-France, n'est-ce pas ? Donc tout ça a été étroitement solidaire. Il y a quand même eu 38 associations d'anciens combattants qui se sont réveillés pour dire qu'ils ne devaient pas aller au Panthéon. Et il y en a deux qui, après que le ministre des anciens combattants ait fait une lettre en disant « Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire ça ?»
L'intervention du grand rabbin.
Oui, mais tout ça est passé quand même un petit peu inaperçu. Mais ça continue. Ça continue. C'est pour ça que Dans cet article de l'Obs, de la même manière que j'avais demandé, et je crois que j'étais à peu près le seul à faire une tribune libre dans le monde pour dire qu'il fallait qu'il soit panthéonisé, de la même manière, j'ai voulu marquer que on continue exactement le même procès antisémite. Parce que c'est clair que le soubassement de tout ça... Les associations d'anciens combattants ne disent pas ça. Mais en fait, le procès de « il a écrit le drapeau », c'est toujours « vous savez très bien que le juif errant, cosmopolite, etc., est forcément apatride, donc c'est pas un national, etc. » Il y a tout ça derrière. Mais maintenant, on le dit plus. D'une certaine manière, c'est de plus en plus difficile de combattre dans le discours l'antisémitisme de cette extrême droite-là, parce que il y a eu la Shoah, il y a eu la loi de 72 contre la propagande raciste, etc. Il y a eu la loi Guesso en 1990 pour combattre le négationnisme, etc. Donc, ils savent très bien qu'ils risquent pénalement de se faire avoir. Alors, on prend des biais. Mais d'une certaine manière, le discours, il y a un sous-texte, il y a un discours subliminal. Et c'est ce discours subliminal qui sert dans le procès qui continue contre Jean Zé. Et moi, je me demande, enfin, on n'a jamais eu l'occasion avec Hélène et Catherine d'en discuter, mais je me demande si il va pas falloir... bon, j'ai écrit cet article dans l'Obs, mais est-ce que ça va suffire ? Certainement pas. Et je me demande si, à un moment donné ou à un autre, il va pas falloir attaquer, faire des poursuites au pénal, parce que ça suffit, quoi.
D'autant plus que j'ai vu cet après-midi même sur mon smartphone un article qui est paru dans un truc, je ne sais plus son nom, et qui dit Jean Zé a été condamné pour désertion, il n'y a pas de guillemets, il n'y a pas marqué qui l'a condamné, etc. Ça, je pense que c'est de la diffamation. Ça peut être poursuivi par diffamation. Enfin, j'en sais rien. Je voudrais juste ajouter une chose, en effet, par rapport à tout ça, c'est que... je crois que tout ça révèle, au fond, beaucoup de choses sur la nature de l'antisémitisme, à savoir que, donc, Gérard l'a dit tout à l'heure, c'était une famille de ce qu'on appelait à l'époque les israélites, hein, le français depuis des générations, etc., laïque, etc. Je crois que l'antisémitisme est d'autant plus fort et plus violent qu'il s'en prend aux Juifs invisibles, si je puis dire, c'est-à-dire qui se font absolument dans la, qui ne se distinguent ni par la religion ni par quoi que ce soit, qui se font dans la société française totalement intégrés. Enfin, j'aime pas ce mot, mais j'en trouve pas d'autres pour l'instant. Et d'ailleurs, dans les textes antisémites sur lui, il y en a un en particulier que j'ai en tête de Rebatté, Lucien Rebatté, où il dit Jean Zay peut bien se dire tout ce qu'on veut, il peut bien être protestant, bouddhiste, musulman, tout ce qu'on veut, il est juif et étranger. Ça, c'est vraiment une thématique qui revient tout le temps. Et j'ajoute, si j'ai encore 30 secondes, ces gens-là ont deux chevaux de bataille, si je puis dire, bon, ça, et puis le fait de dire « il n'était pas résistant ». Vous l'avez entendu, ça. Bon. Alors, « il n'était pas résistant », là, Antoine Prou et Gérard et les autres historiens montrent très bien que c'est un résistant, finalement, avant l'heure. C'est-à-dire qui, alors qu'il est peut-être encore temps, ont décidé, là où ils étaient et au poste où ils étaient, de résister. Alors lui, il l'a fait comme député, je l'ai dit tout à l'heure, en appelant la résistance contre Hitler très tôt, mais il l'a fait dans son œuvre de ministre. Je vais prendre un seul exemple. Par exemple, il introduit le sport à l'école. Vous savez, c'est lui qui a introduit l'heure obligatoire de sport à l'école. Et ça, c'était en réaction avec ce qui se passait en Allemagne, où le sport, comme vous savez, le culte du corps, ben, enfin, vous connaissez tout ça, était vraiment au service de la propagande nazie. Et donc, le fait de scolariser l'école est une façon de lutter contre d'éventuelles contagions, etc., etc. Toute sa conception de l'éducation, c'est pour faire un citoyen, un jeune citoyen, qui résiste aux diverses propagandes, etc. C'est un souci constant. J'ai montré par le Festival de Cannes aussi que c'est une façon de lutter. Bref, et je crois que le président Hollande l'a dit quand il a présenté les quatre panthéonisés, ils ont résisté chacun à leur façon, avec les moyens qu'ils avaient. Et peut-être que de résister avant l'heure, par exemple, quand au moment de la réoccupation de la Ruhr, ça il en parle dans Souvenirs et Solitude, il raconte une séance du Conseil des ministres, où lui, il dit il faut réagir. Il faut absolument réagir. Et bien, finalement, il n'y aura pas eu de réaction, comme vous savez. Et Hitler l'a dit lui-même. S'il y avait eu des réactions, je reculais. Il n'y a pas eu de réaction, je continue. C'est là qu'il fallait résister d'abord, avant d'attendre le pire et que la guerre soit engagée. Enfin, les résistants pendant la guerre sont des héros, hein, bien sûr, mais il faut savoir résister. Je crois que c'est une des leçons aussi.
Je voudrais juste dire une citation qui rejoint tout à fait ce que tu viens de dire. « Ne vous êtes-vous pas aperçu que le juif est en toute chose le contraire de l'allemand et qu'il lui est cependant apparenté au point qu'on pourrait les prendre pour deux frères ?» Et cette angoisse-là, vous savez qui l'exprime ? C'est Hitler.
David. Bon, ben, chers amis, d'abord, je ne peux que vous remercier de votre présence et aussi de ce que vous nous avez apporté. Parce que je pense que nous pouvons en retirer d'abord une grande leçon d'histoire, mais aussi une grande leçon de civisme. Et c'est, je crois, dans notre époque, très important. La deuxième des choses, c'est que quand on rencontre un tel personnage emblématique, il reste toujours présent dans notre actualité, parce que même si on pense qu'on l'avait oublié, et c'est bien que ce que nous pouvons retenir quand nous assistons à une telle soirée, c'est que nous sommes toujours dans l'actualité. Et simplement pour en faire un tout petit point de cette actualité, j'ai remarqué que, puisqu'on l'a évoqué, ce n'est certainement pas la simple utilisation du terme « républicain », entre guillemets, par un certain parti, n'est-ce pas, qui pourra nous remplacer, ces hommes irremplaçables. Alors, encore une fois, merci de nous l'avoir rappelé. Merci.